Bonjour, chers amis amateurs d'histoire de Domfront. Nous reprenons notre chronique, ou nous terminons notre chronique consacrée aux Plantagenêts et Domfront. Alors, la fois précédente, nous avions vu surtout Henri II, Plantagenêt, et secondairement Aliénor. Dans cette chronique, nous parlerons de ses fils, Richard Cœur de Lion, enfin d'Aliénor toujours, son épouse qui lui a survécu, de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre. Donc Richard devient roi d'Angleterre à la mort de son père en 1189. Il ne reste pas longtemps en Europe occidentale. Il va se faire couronner vite fait en Angleterre. Ce sera d'ailleurs l'un de ses très très rares séjours en Angleterre. Richard, roi d'Angleterre, n'a quasiment jamais été en Angleterre. Et il part très très vite à la croisade, d'ailleurs avec le roi de France Philippe Auguste. Le 12 mai 1191, il n'est pas encore en Terre Sainte, il fait une escale à Chypre. Et à cette occasion, à Chypre, il se marie ce jour-là avec Bérangère de Navarre. Et il lui donne Domfront en Douaire, ce qui nous pose un léger problème, puisque Domfront faisait déjà partie du Douaire de sa mère, la célèbre Aliénor d'Aquitaine. Alors comment est-ce qu'ils se sont arrangés? Je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Bon, la croisade, il fait des exploits là-bas, reprennent Acre avec Philippe Auguste. Philippe Auguste se lasse assez rapidement, où ils se fâchent tous les deux. Enfin, Philippe Auguste rentre rapidement de la croisade. Richard reste un moment, et puis il revient. Et quand il revient, l'histoire est bien connue, je ne vais pas préciser tout ça. Il est retenu prisonnier par le duc Léopold d'Autriche parce qu'il avait une dent contre lui, parce qu'il l'avait maltraité en Terre Sainte pendant la croisade. Il avait dû l'insulter ou quelque chose comme ça. Donc au retour, il passe malheureusement par les terres de Léopold d'Autriche. On lui met le grappin dessus, paf, il est prisonnier. L'empereur du Saint-Empire romain germanique récupère le prisonnier et il n'a été relâché que contre une très forte rançon que sa mère, Aliénor d'Aquitaine, a fait l'effort de réunir dans les domaines, dans le royaume d'Angleterre et dans les domaines contrôlés par les Plantagenêts. Bon. Toujours est-il que Richard est libéré en 194, un peu avant même, en 193, et qu'on ne le reverra pas à Domfront avant 1195. Alors, après son retour de la croisade, le conflit qui était latent avec les Capétiens, avec Philippe Auguste, le roi de France, recommence. Richard Cœur de Lion remporte d'ailleurs une victoire sur la Loire, à Fréteval en juillet 1194. Le roi de France est obligé de s'enfuir précipitamment et il laisse dans la bagarre son chariot d'archives qui le suivait partout. Et il perd donc toutes ses archives à cette occasion-là. Et on dit que c'est à cause de ça que le roi de France aurait décidé que ses archives ne le suivraient plus en permanence et qu'elles seraient entreposées définitivement dans son palais à Paris. C'est en quelque sorte la naissance, entre guillemets, des archives nationales. Donc en 1195, on sait qu'il est à Domfront, vraisemblablement au mois d'avril, je vais vous dire pourquoi. Les comtes de l'échiquier, de Normandie toujours, indiquent qu'il reçoit de l'argent des mains de Brice, son chambellan, in camera sua, dans sa chambre ou dans son habitation, donc à Domfront. Et peut-être lors du même séjour, il y a trois chartes de Richard qui sont datées d'avril. C'est tout. Il n'y a pas la date, il n'y a pas l'année. Donc ça ne peut être que 1195, qu'en avril 1194, il n'était pas encore en Normandie. Et en 1199, il est mort. Donc il n'était pas là non plus. Donc ça ne peut être qu'avril 1195 ou 96 ou 97 ou 98 au plus tard. Mais c'était peut-être en 1195. Il a donné aussi la chapelle de Saint-Siméon à l'abbé du Plessis-Grimoux. Alors, est-ce que c'était pendant le même séjour? Possible aussi. On sait aussi qu'il y a des mentions mystérieuses de Sarrasins que le roi d'Angleterre aurait amené avec lui, donc peut-être des gens qui l'auraient ramené avec lui de la croisade. Et ça a fait couler pas mal d'encre parmi les historiens locaux, ces histoires de Sarrasins. du roi Richard, qui sont bien traités, qui sont noblement vêtus, on leur paye des robes, enfin bref, ils coûtent relativement cher. Bon, on ne sait pas trop si ce sont des prisonniers de guerre. D'un autre côté, comment est-ce qu'il aurait gardé les prisonniers de guerre avec lui quand lui-même avait été prisonnier en Autriche et en Allemagne, allez savoir. Ou est-ce que ce sont des gens qui l'ont volontairement suivi? Bon. J'ai fait un petit article sur la présence de ces communautés étrangères, c'est les Juifs, les Sarrasins et les Espagnols à Domfront au Moyen-Âge, allez, au XIIe, XIIIe siècle, dans les... comment dire, dans les actes du congrès de la FSHAN qui s'était tenu à Dieppe 2023 ou 2022, si je me souviens bien. Richard revient à Domfront en 1198 pour fêter Noël, un peu comme son père, à 5 reprises de l'argent du prévôt de Domfront. Bon, elle devait avoir un porte-monnaie, une petite bourse qui ne devait pas être assez grande, ou alors elle avait beaucoup de dépenses, parce que le prévôt de Domfront revient plusieurs fois lui donner de l'argent sur ordre du roi. Alors le prévôt de Domfront, c'est son serviteur Robert le Saussier, qui a peut-être eu au départ, vu son nom, fonction de bouche, hein, qui était peut-être quelqu'un affecté à la cuisine ou des choses comme ça. Responsable, hein, pas cuistot. On est quand même dans les hautes fonctions. Et c'est peut-être durant ce séjour que Aliénor a donné à ce dernier des terres dans les marais de Rouélé, où il a construit un manoir, le manoir de la Saucerie. Alors pas le manoir actuel, hein, qui est bien plus tardif, hein, qui est postérieur à la guerre de Cent Ans, mais un premier manoir de la Saucerie. Et on lui a donné aussi, à Robert le Saussier, la terre de Montfrilou. La terre de Montfrilou, c'est sur Mantilly. Il y a guère plus à dire sur Richard à Domfront. Richard quitte Domfront donc après les fêtes de Noël 1198. Il quitte Domfront début janvier parce qu'il doit rencontrer Philippe Auguste quelque part sur la Seine, le fleuve, hein, la Seine. Il en résultera le traité du Goulet, une trêve entre eux, le 13 janvier 1199. Et puis après, il se dirige vers le sud pour mater une révolte des barons en Limousin, où il paraît qu'il y a un seigneur qui avait trouvé un trésor et qu'il ne voulait pas donner sa part à son suzerain, le roi Richard. Alors Richard va retrousse ses manches et va lui régler son compte, sauf que c'est lui qui, quand il assiège Chalut, qui prend un carreau d'arbalète dans l'épaule, ça s'infecte et il meurt. Purement et simplement. En avril, donc, 1199. Et c'est son frère, Jean, surnommé Jean Sans Terre, qui lui succède. Alors, petite parenthèse, pourquoi Jean Sans Terre ? C'est que lors d'une précédente révolte, du temps où Henri II Plantagenet vivait encore, ses fils se sont révoltés en disant « c'est pas tout, on veut avoir des moyens de vivre, hein, on veut avoir une part de tes terres, de fiefs pour pouvoir vivre dessus ». Et Henri avait procédé à une première distribution de terres. Et le petit Jean, qui était le dernier-né, n'avait rien eu. C'est pour ça qu'il était surnommé Jean Sans Terre. Bon, depuis, il a cessé d'être sans terre. Hein. Il rassemble l'intégralité de la succession Plantagenet. Alors Jean, je connaissais primitivement 2 séjours de lui, en 1200. Il est à Domfront et il donne le fief de la Fontaine aux Ânes. Alors la Fontaine aux Ânes, c'était sur Champ Secret, à son fou Guillaume Picolf. Et en 1203, il est présent à Domfront du 17 au 21 novembre. Et on le sait parce qu'il a passé un certain nombre d'actes à Domfront, hein, des brefs royaux, comme j'ai parlé l'autre fois, des petits ordres brefs. Et là, il les date et à tous les sens du terme, c'est-à-dire datum donné à. Donné le tel jour et donné à, et en l'occurrence, à Domfront. Donc on sait qu'il était là. Mais Jean était là avec ses 2 séjours, mais il y a une étudiante de l'université de Caen qui s'appelle Patricia Moitrel, qui a fait un mémoire de maîtrise à l'université de Caen en 2002, qui a recensé d'autres séjours entre 1199 et 1203. Et elle ne semble d'ailleurs pas avoir repéré celui de 1200. Donc elle a repéré un séjour le 15 et 16 novembre 1201, le 30 décembre 1201 jusqu'au 3 janvier 1202, et du 23 au 25 octobre 1202. Donc ça nous ferait au total, à ce moment-là, si on rajoute ces trois séjours-là que je ne connaissais pas, plus celui de 1200, plus celui de 1203, on aurait cinq séjours attestés de Jean Santerre à Domfront. Alors, vous avez remarqué que ces séjours sont extrêmement brefs. Hein, Jean Santerre passe combien ? Deux, trois jours, pas plus. Il faut bien comprendre qu'un grand seigneur médiéval est extrêmement itinérant. Ça bouge tout le temps. D'abord parce que c'est requis pour des affaires diverses. Hein, il doit aller rendre la justice, il doit éventuellement intervenir militairement, il doit, bon, etc. Et puis, il faut également qu'il se fasse voir de temps en temps de ses sujets. Et on rajoutera à ça le fait que Jean Santerre, en plus de ça, est d'un caractère instable et qui ne reste pas en place. Et il se déplace d'ailleurs avec une vitesse étonnante pour l'époque. Il descend jusqu'au pied des Pyrénées. Il est il est en Normandie. Il descend jusqu'au pied des Pyrénées, dans les régions de Bayonne ou dans ces coins-là. Et il en remonte et il met 15 jours pour ça, quoi. Enfin, il passe son temps à cheval et il se déplace très, très vite. Et donc, il ne reste jamais très, très longtemps dans le même endroit. Donc, 2-3 jours à Domfront ou 4-5 jours, c'est beaucoup. Il n'y a que guère dans les environs de Rouen ou à Moulineau ou à Orival qu'il est capable de rester des fois une semaine ou 15 jours. Et encore, c'est relativement rare. Alors, Jean Santerre a néanmoins montré pas mal d'intérêt pour Domfront. On a conservé de lui plusieurs actes ordonnant de renforcer les défenses, de payer le gouverneur, de payer la garnison, etc., etc. Par exemple, le 16 juin 1202, Jean Santerre est à Orival. Orival, c'est sur la Seine, du côté de Rouen. Il ordonne de renforcer les défenses et la garnison de Domfront. Le conflit avec Philippe Auguste est latent, ça peut reprendre d'un moment à l'autre, donc il se prépare. Le 24 février 1203, cette fois-ci, il est à Rouen. Jean demande à ses officiers locaux d'emprunter 200 livres angevines aux Juifs de Domfront. Ce qui nous montre au passage qu'il y avait déjà une communauté juive à l'époque à Domfront, et avec, dont on ignore totalement le nombre, l'importance, mais enfin, il y avait les Juifs de Domfront, donc ils étaient plusieurs, toute une communauté, et que ces Juifs étaient manifestement des réputés riches ou des manieurs d'argent, puisqu'on va leur emprunter, des sous. 200 livres, même remarque que la fois dernière, c'est une somme relativement importante pour l'époque. C'est déjà pas mal. Le 25 février 1203, donc juste le lendemain, donc Jean, pour le coup, est toujours à Rouen, il n'a pas bougé, il accorde une charte de commune aux bourgeois de Domfront, c'est-à-dire la possibilité de s'auto-gérer en quelque sorte. Il y aura un maire et des échevins, dont on connaît les noms d'ailleurs. Le maire s'appelait Robert Bretel, c'est le premier maire de Domfront que l'on connaît. Alors, c'est pas maire au sens actuel du terme, c'est le chef de la communauté des bourgeois de Domfront. Et des quatre échevins. Et cette charte de commune, alors Domfront a été une des sept villes ainsi dotées par les Plantagenêts. Les autres, c'était Caen, Rouen, alors des grandes villes, Domfront fait partie du lot. Alors c'est très honorifique, mais c'est pas gratuit, faut pas croire. En fait, c'était une façon de faire participer les bourgeois aux dépenses de défense de la ville. C'est-à-dire, grosso modo, Jean Santerre avait comme idée que ce soit les bourgeois qui payent, alors peut-être pas pour le château, mais certainement pour l'enceinte urbaine, que ce soit eux qui financent ça, et non pas lui. C'était une commune très précaire, parce que le roi disait « tant que durera notre bon plaisir », donc il pouvait la révoquer du jour au lendemain, et d'ailleurs elle n'a pas survécu à la chute des Plantagenêts, à la conquête de Domfront par les troupes de Philippe Auguste, et on ne parlera plus de la commune de Domfront après. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Toujours en 1203, le 14 mars, cette fois-ci, Jean est à Argentan et il ordonne au sénéchal de Normandie de payer 100 livres supplémentaires pour les travaux à Domfront. Ça commence à faire des sommes. Et le dernier acte de ce genre que l'on ait, le 16 avril 1203, il est à Bonneville-sur-Touques. il paye 30 livres à la garnison. J'ignore complètement quelle pouvait être la taille de la garnison du château de Domfront, quelques dizaines d'hommes au maximum. Une garnison de 25-30 hommes à l'époque, 25 hommes d'armes, c'était déjà pas mal. On n'est pas encore à l'époque de la guerre de 100 ans. Et puis, comme vous le savez tous, Jean Santerre a ordonné, alors on n'a pas de texte formel qui le prouve, mais toutes les études, et notamment les études d'archéologie monumentale le prouvent, c'est lui qui a ordonné de faire construire la fameuse courtinagen sur le flanc, sur la face orientale du château de Domfront, la plus vulnérable, celle qui est tournée vers la ville. On en a vraisemblablement profité pour surcreuser le fossé entre ville et château. Marie-Pierre Baudry, dans son étude qui est parue dans le Domfrontais médiéval 25, si je me souviens bien, montre bien, d'une part par des arguments d'intérêt, qui aurait eu plus intérêt et qui aurait eu plus les moyens que Jean Santerre de construire la courtinagen, qui n'a quand même pas dû être donnée. Vous avez quand même 100 mètres de fortification élaborée, 100 mètres de long face à la ville. Ça a dû coûter une certaine somme, cette chose-là, même si on n'en a pas la trace immédiate. La seule trace qu'on ait, c'est il ordonne que l'on construise des ours. Mais les ours, ce n'est pas la même chose. Les ours, c'est une galerie en bois qu'on suspend au sommet de la muraille. La courtinagen, c'est un nouveau mur dans lequel on fait une galerie de circulation interne, donc, que tout le monde peut encore aller voir de nos jours. Donc c'est une fortification extrêmement importante qui a dû coûter passablement cher, qui a été construite avec une vitesse remarquable, en tout cas entre 1200 et 1203. Donc voilà, et puis après, on peut faire l'épilogue parce que les dépenses de Jean Santerre, c'est un peu comme les dépenses de la ligne Maginot. Ça a servi à rien puisque dès l'année suivante, en 1204, Philippe Auguste a conquis la Normandie. Je ne veux pas dire sans coup férir, ce serait peut-être un petit peu trop facile. Enfin, il a quand même conquis la Normandie extrêmement rapidement. Et Domfront, comme l'ensemble de la Normandie, est passé aux Capétiens. Et à Domfront même, comme c'était une possession personnelle des Plantagenêts, c'est devenu une possession personnelle des Capétiens, des rois de France Capétiens, qui ensuite l'ont donné, soit l'ont conservé en propre, soit l'ont donné en apanage, on a déjà vu ça, à des membres de leur famille, à Robert d'Artois, plus tard au comte d'Alençon, etc. Alors on a une dernière chose à mentionner, c'est le transfert du douaire de Bérengère. Alors, en 1204, ça y est, Aliédor est morte. Elle est morte en avril 1204. Donc, si elle avait conservé quoi que ce soit comme douaire sur Domfront, de toute façon, la question ne se posait plus. Par contre, Bérengère de Navarre, la femme de Richard Cœur de Lion, elle est toujours vivante et elle a un douaire, vous vous souvenez, sur Domfront, Falaise et Bonneville sur Touques. Et Philippe Auguste lui fait un échange. Il reprend toutes les places normandes, dont Domfront, et il lui donne en échange la ville du Mans. Et d'ailleurs, Bérengère est enterrée à l'abbaye de Lépau, près du Mans actuellement. Et on a fait une enquête en 1204, et cette enquête sur les revenus de la terre de Domfront, et c'est cette enquête de 1204, petit texte qui est conservé, qui nous donne une idée des sommes que rapportait Domfront. Je ne sais pas si c'est complet, parce que ça ne fait pas énorme. Et c'est elle qui nous donne le nom de Robert Bretel. Elle ne nous donne pas les échevins. Elle nous dit qu'il y a des échevins, mais elle ne nous en donne pas les noms. Et c'est elle qui nous donne, par contre, le nom de Robert Bretel comme maire de Domfront. Voilà. Et à partir de là, donc, plus de Plantagenêts à Domfront, si ce n'est leurs troupes quand ils reviendront, mais bien plus tard, pendant la guerre de Cent Ans.